Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, un prix Nobel de chimie, cela s'obtient comment ? Jean-Pierre Sauvage fait partie de ces chimistes capables de créer des assemblages moléculaires complexes, d'une grande beauté, qui présentent des propriétés proches de celles des molécules de la vie. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de chimie. Il est l'invité exceptionnel de Science en question. Bonjour Jean-Pierre Sauvage.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg, vous êtes membre de l'Académie des sciences et je viens de le rappeler, prix Nobel de chimie. Vous venez de publier un ouvrage remarquable intitulé « L'élégance des molécules » qui raconte comment vous êtes parvenu, je cite, à insuffler un ersatz de vie à des molécules qui en étaient dénuées. Et vous commencez cet ouvrage en disant que vous avez passé 45 ans de votre vie dans la chambre à coucher de la nature. Que voulez-vous dire par là ? Est-ce que c'est une relation d'amour ?
C'est certainement une relation d'amour. Disons, la nature inspire tout un ensemble de scientifiques, dont les chimistes des molécules, puisque la nature, ce sont des molécules. La vie, ce sont des molécules. Et le chimiste a les moyens d'essayer, au moins, d'imiter les processus de la vie.
Alexandre Dumas a dit un jour que l'amour, c'est de la physique, et que le mariage, c'est de la chimie. J'ai jamais compris cette phrase, mais vous qui êtes chimiste, est-ce que vous avez un sens à lui trouver ?
Le mariage, disons, ça colle assez bien avec la chimie, dans la mesure où les atomes doivent bien s'entendre pour s'assembler et former des molécules.
Alors justement, quand on parle de molécules, et sachant que dans cette émission, on aime beaucoup les anagrammes, est-ce que vous avez établi une fois un lien entre les réactions chimiques et les anagrammes ? Les atomes jouant le rôle des lettres, les molécules jouant le rôle des mots, et une réaction chimique, finalement, c'est l'équivalent d'une anagramme pour le langage.
Oui, disons-moi, j'ai jamais établi ça, non.
Alors, vous avez travaillé sur les machines moléculaires, au pluriel, dont l'anagramme est macrocéisme halluciné. Je sais pas si ça vous parle.
Magnifique, oui.
Vous dites que vous avez toujours eu besoin d'indépendance. Or, l'anagramme de espace de liberté, c'est idée respectable. Elle a été trouvée par mon camarade Olivier Garcia.
Bravo à tous les deux.
Vous êtes d'accord aussi pour dire que renoncer à la liberté, ça serait une errance intolérable, ce qui est l'anagramme.
Si, oui.
Voilà. Bon, ce livre dont on parle, l'élégance des molécules, est très très bien écrit. Est-ce que pour vous, la bonne écriture va de pair avec la bonne science et avec sa bonne narration ?
Je pense que, bon, c'est pas moi qui le dirai, mais le premier, mais enfin... La manière dont on énonce ce que l'on a envie d'énoncer dépend de la manière dont on a digéré la science qui est derrière. Donc j'espère avoir bien digéré cette science.
Et en exergue de votre livre, Jean-Pierre Sauvage, vous citez l'extrait d'un rapport de stage d'une étudiante en chimie que vous avez reçue. Elle est japonaise. Oui. Et elle écrit ceci: au laboratoire Sauvage, les gens ne travaillent pas beaucoup, mais ils aiment bien boire du thé et du café tout ensemble. C'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup dans votre laboratoire.
C'est pas complètement vrai, non. C'est vrai qu'on boit du thé et du café ensemble, mais c'est pas vrai qu'on ne travaille pas beaucoup. Simplement, venant du Japon, elle était habituée à un système beaucoup plus directif et beaucoup plus de contrôle sur les horaires.
Alors, vous le dites vous-même, le halo symbolique de la chimie n'est pas très positif dans l'opinion. Vous dites que le cliché fait du chimiste un alchimiste hirsute qui examine à la loupe un tube à essai fumant, renfermant sa dernière potion, ou bien un autre cliché veut qu'il soit un industriel machiavélique, cigare aux lèvres, repu d'avoir trouvé une formule de son pesticide encore plus toxique que la précédente. Mais quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que la chimie, c'est bien autre chose.
La chimie, c'est une belle science, au niveau esthétique simplement, au niveau des idées. Disons, avoir des raisonnements de chimie relativement élaborés et qui vont déboucher sur quelque chose, ce sont déjà de beaux raisonnements. Et les objets qu'on fabrique, les molécules, donc malheureusement on ne peut pas les voir à l'œil nu, c'est le point faible de l'art du chimiste. Mais si on arrive à les grandir suffisamment, on va obtenir des objets magnifiques que tout le monde seraient capables d'admirer, simplement pour leur propriété esthétique.
On sent que l'esthétique a joué un rôle dans votre parcours. Vous avez décidé assez tôt de devenir chimiste. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les grandes étapes de cette passion, finalement?
Oui, passion, oui, c'est sans doute le mot. Disons, très jeune, je me suis intéressé à la chimie. Je vivais à la campagne et il n'y avait pas grand-chose à faire, disons, en dehors de s'intéresser à la nature. Donc la biologie a tout de suite été une passion. Et j'ai commencé à prendre des feuilles, cueillir des pétales de fleurs, etc. Et essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Extraire des molécules à l'intérieur d'un matériel végétal.
Donc à Jean-Pierre Sauvage, à 13 ou 14 ans, vous
avez quitté
de ce qu'on appelle un bécher.
Oui, bécher, herlaine,
meyer. Comment est-ce que vous vient l'idée de faire ces choses et comment est-ce que vous savez comment les faire puisque les cours de chimie au collège ne sont pas suffisants pour qu'on puisse...
Oui, disons, je savais qu'on pouvait... c'était quelque chose de connu, que si on dépose des chlorophylles sur une feuille de papier, en faisant passer ensuite un solvant, et notamment de l'eau, on arrive à séparer des chlorophylles, différentes formes des chlorophylles. Donc ça a été des expériences qui m'ont fasciné.
Et vous avez décidé de... Alors vous avez fait une classe préparatoire à Strasbourg,
oui, voilà.
Après avoir beaucoup voyagé.
Avoir voyagé comme un fou, oui.
Parce que votre père était militaire.
Le monsieur qui m'a élevé, disons, qui ouais. était mon beau-père, était militaire et j'ai déménagé, je ne sais pas, 15 fois.
Donc vous avez décidé de faire vos classes préparatoires à Strasbourg.
À Strasbourg, voilà.
Et vous avez décidé de... d'y faire une grande école, enfin de
m'y fixer.
De m'y fixer.
Absolument.
Et la raison que vous citez dans votre livre, qui m'a beaucoup surpris, c'est que vous aviez planté des souches dans un jardin, j'imagine, et que vous ne vouliez pas les abandonner. Et donc vous vouliez une école, rentrer dans une école, l'école chimie de Strasbourg,
oui, oui.
qui était là.
Je voulais rester à Strasbourg, disons, pour plusieurs raisons.
Plutôt que d'aller à Polytechnique ou dans d'autres grandes
écoles.
Oui,
bon, je ne sais pas si j'aurais eu les concours, mais disons, ça ne me semblait pas non plus essentiel.
Alors, il y a une question qu'on doit vous poser souvent, Jean-Pierre Sauvage. Est-ce qu'on est capable, ou est-ce qu'on sera bientôt capable de comprendre ce qui fait que la vie est la vie, l'origine de la vie? Est-ce que c'est une affaire de chimie, de biologie? Ou bien est-ce que la biologie a finalement une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique? Au sens où les lois biologiques seraient oui. d'autres lois que les lois qui gouvernent la matière dans ce qu'elle a d'inerte.
Disons, de mon point de vue, la biologie moléculaire, c'est de la chimie. Il y a des molécules, ce sont des molécules. Toute la chimie, disons, toute la biochimie, toute la biologie moléculaire est fondée sur des molécules que l'on pourrait synthétiser, que l'on pourrait fabriquer si on en avait envie, pour le chimiste. Donc il n'y a pas de frontière réellement entre chimie moléculaire, biochimie et biologie moléculaire.
Votre oui. grande affaire, Jean-Pierre Sauvage, c'est la synthèse.
Oui,
c'est la synthèse. La synthèse, ça veut dire on prend deux molécules différentes et on essaie à partir d'elles d'en faire une troisième.
Oui,
alors, vous
plus
racontez,
compliqué.
Plus compliqué. Et vous racontez que, alors que vous étiez très jeune, vous avez pris un verre de vin qui contient de l'éthanol. Vous l'avez mélangé avec un verre de vinaigre qui contient de l'acide acétique. Vous avez chauffé l'ensemble et vous avez ainsi produit une nouvelle molécule qui s'appelle l'acétate d'éthyle, dont l'odeur ressemble à celle des
oui,
tubes de colle à papier.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? C'est un professeur qui vous a indiqué le protocole?
Oh oui, ça c'était déjà dans nos cours de chimie. Ça s'appelle une réaction d'estérification. C'est une réaction très simple. Et qui est à la portée d'un élève de seconde ou première. Et c'est magique parce que tout d'un coup, l'odeur du mélange change complètement. Et on a cette odeur agréable d'acétate d'éthyle. Alors qu'avant, ça sent un peu le vinaigre, c'est tout.
Donc il y a quelque chose de magique dans la chimie? C'est
oui.
des transformations qui surprennent?
Oui, oui, oui. C'est des transformations de molécules en d'autres molécules, souvent plus complexes, souvent plus intéressantes. Et pour revenir à la synthèse, si vous me permettez, donc ça c'est une synthèse extrêmement simple. Éthanol plus acide acétique donne acétate d'éthyle, la molécule parfumée. Mais bien sûr, il y a des opérations de synthèse extrêmement complexes qui font intervenir des dizaines et des dizaines d'étapes différentes.
Alors justement, là, une des premières opérations qui a, ils ont interrogé l'origine de la vie et qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle qu'a réalisée en 1953, si ma mémoire est bonne, Stanley Miller.
Miller, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il avait fait exactement ?
Alors, Miller avait essayé de reproduire l'atmosphère primitive, en prenant aussi une soupe primitive, et qui contenait des molécules extrêmement simples, de l'eau, de l'azote. Ensuite, il a sophistiqué un petit peu son expérience en rajoutant du dioxyde de carbone, et il a fait passer des arcs électriques au-dessus. Donc c'est exactement des orages, hein, très, très violents. Et la soupe primitive qui était en dessous, il s'est rendu compte que plus on faisait passer d'arcs électriques, et plus elle contenait de molécules proches des molécules de la vie, et notamment des aminoacides. Les aminoacides sont les briques des protéines.
Au nombre de 20.
Voilà.
Il en a réalisé 5 ou 6.
Oui, oui, au début, et ensuite ils ont refait d'autres manips où ils ont obtenu pratiquement la totalité.
En ajoutant du gaz carbonique.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc on arrive quasiment à refabriquer à partir de conditions particulières
tous les éléments des protéines. Est-ce
que ça veut dire qu'on a compris comment la vie est apparue ?
Non, non, non. Je crois qu'il faut rester lucide. Disons, on a compris que il est très vraisemblable que les aminoacides qui ont été nécessaires à la formation des protéines, qui sont les éléments essentiels de la vie, aient pu être obtenus, disons, il y a très très longtemps, avec simplement l'atmosphère de l'époque et des orages violents.
Mais Jean-Pierre Sauvage, si j'arrive avec deux molécules dont je connais la nature, la composition en atomes, est-ce que vous êtes capable de me dire, a priori, sans faire d'expérience, si elles sont capables de s'associer par une synthèse ?
Oui, sans doute, oui.
Dans tous les cas.
Oh, dans beaucoup de cas.
Oui, même quand le nombre d'étapes qu'il faut réaliser pour obtenir cette synthèse peut être très élevé. Vous citez l'exemple de la synthèse de la vitamine
B12.
B12 qui a été synthétisée il y a quelques dizaines d'années, grâce à la réalisation de plus de 100 étapes successives.
Un grand nombre
de chercheurs, de doctorants dont vous avez établi la comptabilité. Ça veut dire que c'est extrêmement complexe.
C'est extrêmement complexe. Non, je pensais que votre question était, si je vous montre deux molécules, est-ce que vous êtes capable de dire si elles vont réagir pour donner une troisième molécule en une étape? Mais bien sûr, prévoir à plusieurs dizaines d'étapes à l'avance, ça me paraît complètement impossible.
Alors vous citez un autre exemple dont j'ignorais l'existence, je dois l'avouer, la brévétoxine B, qui elle réclame 137 étapes.
Oui.
Et donc,
136 étapes.
Là, j'imagine qu'on ne sait pas a priori si c'est possible.
Non,
il faut le faire
sûr.
Pour le démontrer.
Bien sûr. Et disons, il faut aussi bien comprendre qu'en synthèse, les choses ne marchent en général pas exactement comme on l'a prédit. C'est-à-dire qu'on va buter à un moment, il faut revenir, il faut changer la route, on va prendre un autre virage, recommencer, et puis peut-être que de nouveau on va avoir une barrière, il faudra reculer 3 étapes, etc.
Mais il faut y croire.
Ah, il faut vraiment être déterminé.
C'est votre cas.
Oui, c'est mon cas.
Alors, je vous ai présenté comme un homme de synthèse, enfin fasciné par les synthèses en chimie, mais votre grand truc, si j'ose dire, c'est plutôt c'est surtout la photosynthèse.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle consiste et pourquoi vous considérez qu'elle a quelque chose d'extraordinaire ?
Oui. La photosynthèse, disons, elle est à l'origine de la vie que l'on connaît sur notre planète, puisque elle permet de transformer le dioxyde de carbone et l'eau, deux molécules d'une simplicité absolue, en sucre, en tissu pour les plantes. Et bien sûr, il faut une source d'énergie, et la source d'énergie, c'est l'énergie solaire. Donc c'est merveilleux de penser, deux petites molécules très très simples, plus de l'énergie solaire, et on obtient toute la végétation qui nous entoure.
C'est-à-dire on obtient les feuilles, les troncs,
les fleurs, les troncs, etc. On obtient le matériel génétique, donc les semences, qui vont permettre aux plantes de se reproduire. Donc tout est dans la photosynthèse. Et les chimistes sont fascinés depuis très longtemps par la photosynthèse. Et en particulier, ils ont essayé de fabriquer des systèmes complètement artificiels capable de réaliser de la photosynthèse.
Et est-ce qu'ils y arrivent ?
Oh, c'est très très compliqué. On est très loin de réaliser la photosynthèse.
Mais est-ce qu'on est capable de la comprendre ? Ou est-ce qu'il y a des étapes qui semblent, disons...
On est capable de la comprendre. Je pense que étape par étape, on est capable de comprendre pratiquement tout. Disons, ce qui nous manque, c'est ensuite un chef d'orchestre qui va mettre toutes ces étapes dans le bon ordre, qui va donner le tempo pour chaque étape, puisqu'il va y avoir des étapes qui vont être nécessairement avant d'autres. Ça nous manque complètement.
Mais on est quand même capable de comprendre d'où vient que les plantes, en général, sont vertes.
On arrive très bien à le comprendre, oui.
Est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Oui, c'est la chlorophylle. Et la chlorophylle est verte, c'est pas par hasard, c'est parce que l'énergie solaire, disons, va être captée de manière très efficace avec une molécule verte dans ces conditions. Mais il y a des bactéries, par exemple, qui peuvent être pourpres parce que leurs conditions, disons, la lumière dont elles vont dépendre va être plus adaptée à la couleur pourpre.
J'en viens, Jean-Pierre Sauvage, à votre propre biographie. Vous avez donc intégré cette école de chimie à Strasbourg.
Oui, oui.
Et puis vous avez collaboré avec Jean-Marie Lenne.
Oui, j'ai été son étudiant.
Voilà, qui aura le prix Nobel. Le premier d'ailleurs après les Jules Curie en 1935,
oui.
Qui a eu quelques décennies sans prix Nobel de chimie en France. Il a été le suivant. Alors sur quoi avez-vous travaillé avec lui? Et puis comment est-ce qu'il vous a présenté ce qu'allait devenir votre sujet de thèse?
Donc Jean-Marie Lenne, bon, c'est, disons, c'est, ça a été une rencontre déterminante pour moi. Je pense que je n'aurais jamais réussi scientifiquement aussi bien si je ne l'avais pas rencontré. Mais il m'a proposé un sujet enthousiasmant sur lequel j'ai travaillé avec mon meilleur ami de toujours, Bernard Dietrich, qui était de fabriquer des molécules cages, donc des petites cages moléculaires capables d'emprisonner des ions.
Oui, il vous a dit, toi Jean-Pierre, tu vas aller plus loin et essayer de développer un squelette moléculaire en trois dimensions capable d'encapsuler des ions. À ma connaissance, personne ne l'a encore fait. Tu seras le premier. Voilà ton sujet de thèse.
Oui.
C'était simple.
C'était simple. C'était un très bon guide. Disons, il était disponible en permanence pour donner des conseils, très avisé. Donc, ça a été une période très heureuse.
Est-ce que vous avez réussi à faire ce qu'il vous avait demandé?
Oui, oui, oui. J'étais pas seul, hein, mais... Disons, j'ai réussi.
Alors, qu'est-ce que vous appelez, j'ai tout appris en vous lisant, hein, une crypte moléculaire.
Oui, c'est ça, une crypte moléculaire. C'est simplement une cave, non, une grotte, si vous voulez. Ça correspond à cette idée de cage dans laquelle vous allez emprisonner quelque chose.
Et vous allez devenir, peu de temps après, ce qu'on pourrait appeler le seigneur des anneaux.
Oui. Disons, c'était un domaine qui était assez peu développé en chimie moléculaire, de fabriquer des anneaux entrelacés les uns avec les autres. Donc deux anneaux entrelacés, qu'on appelle un catenan, hein, comme du latin catena, qui veut dire chaîne. Donc deux anneaux entrelacés, c'est la plus petite chaîne à laquelle on puisse penser.
Avec donc c'est des chaînes qui, enfin, c'est des anneaux qui sont composés d'atomes.
Oui, c'est ça.
Une sorte de molécules circulaires, on peut dire ça comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est tout à fait. Ce sont deux molécules circulaires qu'on arrive en fait à imbriquer, à entrelacer l'une avec l'autre. Et c'était des molécules qui semblaient extrêmement difficiles à fabriquer avant. Et disons, ce qui a un petit peu débloqué ce domaine, c'est une idée très simple et une réaction très simple qui a permis de fabriquer ces molécules.
C'est-à-dire, alors, moi, ça m'impressionne beaucoup ce que vous racontez. Comment est-ce que, le problème étant posé comme Jean-Marie Lenne vous l'a indiqué,
oui.
Comment est-ce qu'on commence? Par quoi on commence? Comment est-ce qu'on mature un projet de cette sorte?
Oui, alors ça c'est différent des anneaux entrelacés.
D'une façon générale, quand on a un objectif comme celui-là, alors, en tant que chimiste, qu'est-ce qu'on fait?
Disons, il y a une démarche, la première démarche, c'est de dessiner les molécules que l'on veut obtenir.
Donc leur topologie.
Faire un dessin.
Leur topologie.
Leur topologie, leur topographie, leur forme aussi. Donc les dessiner sur une feuille de papier et les laisser un peu maturer dans son esprit pour voir comment on pourrait attaquer le problème de la synthèse. Parce que la synthèse est extrêmement difficile, rien que de trouver une route raisonnable. Donc une fois qu'on a bien digéré les molécules que l'on veut synthétiser, alors on peut commencer à approcher la voie de synthèse en une étape, deux étapes, trois étapes, N étapes. Et une fois que tout ça est bien en place, alors on démarre le travail expérimental.
Et en l'occurrence, ça vous a pris combien d'années ?
Disons, alors pour les cryptates, c'était pas très très long. Disons, mon travail de thèse avec Jean-Marie Laine, c'était quelques réactions, peut-être 7-8 réactions. Donc 7 ou 8 étapes. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup beaucoup plus. Et pour les caténanes, donc deux anneaux entrelacés, c'était même encore pratiquement plus rapide. Parce qu'on a eu la chance, en travaillant sur des problèmes de photosynthèse, d'avoir une idée, disons, liée aux molécules sur lesquelles on travaillait pour faire de la photosynthèse. Et cette idée nous a fait changer complètement de domaine et nous a emmenés vers des anneaux entrelacés.
Et quand on vous racontait comment vous avez procédé, on sent chez vous presque une obsession qui vous prend la tête pendant de longues heures chaque jour.
Oui, mais disons c'est même le métier du chercheur.
Même le week-end, le samedi matin, vous lisez des revues.
Oui, ça c'est important. Disons c'est quelque chose qui a un petit peu disparu parce que maintenant la littérature scientifique, les gens l'approchent en ligne. Donc, ils ne feuillettent plus de journaux, comme dans le temps. Et je le regrette d'une certaine manière, on rate quelque chose, c'est qu'en feuilletant un journal, on va par accident tomber sur un article peut-être intéressant, relativement éloigné du domaine dans lequel on travaille, mais qui peut vous apporter des idées.
Qui peut vous inspirer. En résonance avec vos propres
projets. Voilà, avec vos propres projets.
Est-ce que ça s'approche de la sérendipité, comme on l'appelle, c'est-à-dire
en partie,
de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas, en ne trouvant pas ce qu'on cherche.
Vous avez totalement raison. Disons, ça correspond à de la sérendipité, sans aucun doute.
Est-ce que vous-même, vous avez eu des expériences de sérendipité? Vous avez,
par hasard, trouvé des choses? Oui,
ben, on a eu de la chance, oui. Vous avez de la chance?
Oui. De la chance, c'est-à-dire, par exemple, faire des caténanes, ça provenait d'une idée qui était due au hasard, en grande partie.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, on travaillait sur des molécules pour faire de la photosynthèse, et tout d'un coup, alors je peux dire j'ai réalisé que ces molécules pouvaient être utilisées pour tout autre chose, et notamment fabriquer des molécules à anneaux entrelacés.
Mais ça, c'est pas exactement de la chance, c'est parce que votre esprit était préparé.
Il y a un peu de vrai aussi, oui.
Un autre que vous n'aurait pas eu forcément la même idée.
Peut-être, oui.
Alors, un autre sujet qui vous passionne, c'est ce que on appelle en chimie la photolyse de l'eau.
Oui.
C'est quelque chose qui est à la fois fascinant pour la chimie, enfin pour un chimiste, mais qui pourrait être fondamental aussi pour ce qui est de la production d'énergie.
Oui, absolument. En fait, c'est une autre réaction de photosynthèse. Puisque l'on va synthétiser de l'hydrogène. C'est une molécule très très simple, mais très intéressante. Donc ça ressemble beaucoup à la photosynthèse. Il y a d'ailleurs des organismes qui font des choses semblables. C'est une réaction donc qui conduirait au fuel idéal, l'hydrogène, et qui paraît simple, mais elle est excessivement difficile à réaliser.
Parce que l'hydrogène H2 n'existe pas de façon naturelle sur Terre.
Non, disons,
quasiment pas. Donc il faut le fabriquer.
Il faut le fabriquer.
Alors quels sont les processus concurrents et en quoi la photolyse de l'eau serait un avantage décisif?
C'est
décisif.
Une question qui est très importante au niveau économique. L'hydrogène aujourd'hui, il est principalement obtenu en partant de produits pétroliers. Et on va arracher les atomes d'hydrogène de ces produits pétroliers. Ça s'appelle du cracking. Donc on obtient alors de l'hydrogène, ou du dihydrogène, disent certains chimistes. Ça nous laisse les résidus pétroliers. Donc pour la planète, ça c'est très mauvais. Pour le dioxyde de carbone, ça va un jour se transformer en dioxyde de carbone. Alors que l'approche photolyse de l'eau, ça serait simplement prendre de l'eau, mélanger ça avec un catalyseur ou quelque chose, disons, qui a des propriétés merveilleuses, qui vont permettre, grâce à l'énergie solaire, de faire apparaître de l'hydrogène et de l'oxygène.
Et est-ce qu'on a de bon espoir que ça réussisse? Ou est-ce que...
Ça fait, disons, les premières publications que j'ai lues dans ce domaine étaient déjà des publications anciennes. Ça doit bien faire 60, 70 ans que les gens y travaillent, avec un succès relatif, très relatif.
Mais il continue, ça veut dire que l'impossibilité n'est pas démontrée.
Non, disons, ça pourrait marcher. Alors, il y a des systèmes qui sont proches. On pourrait avoir des cellules photovoltaïques, notamment avec des colorants moléculaires. Il y a des cellules photovoltaïques avec des colorants moléculaires. Et utiliser ces cellules voltaïques ensuite pour couper la molécule d'eau en appliquant une différence de potentiel, simplement un courant électrique fourni par ces cellules photovoltaïques pour faire de l'oxydation de l'eau en O2 et de la réduction de l'eau en dihydrogène.
Est-ce que les questions d'environnement, dont on parle beaucoup, notamment à propos du climat, de la biodiversité, vous inquiètent ?
Disons, le climat, l'évolution du climat m'inquiète, mais, alors je vais peut-être en décevoir un certain nombre, mais on peut pas désorganiser une société totalement désorganisée pour régler de manière trop brutale les problèmes de réchauffement de la planète. On est obligé d'accepter qu'il y ait des compromis. On peut pas encore se passer complètement des produits qui vont conduire au dioxyde de carbone. Non, aujourd'hui, on peut pas.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faudra faire en sorte de pouvoir le faire.
Il faut y travailler, bien sûr, beaucoup.
Vous parlez de direction de projet. Vous avez dirigé des équipes tout au long de votre carrière. Et vous comparez, Jean-Pierre Sauvage, la direction de projet à la pêche à l'écrevisse. N'ayant jamais personnellement pêché des écrevisses, je sais pas en quoi ça consiste.
Moi, j'ai pêché des écrevisses quand j'étais gamin, mais disons, c'est peut-être un petit peu osé. C'est que simplement, si on a des projets, on va lancer des projets en tant que chef d'équipe et confier ces projets à des plus jeunes chercheurs. Et si ça marche pas, après un certain temps, il faut savoir dire ça marche pas. On va essayer de trouver un autre domaine dans lequel on aura des succès. Donc ça correspond effectivement, on change d'endroit pour pêcher les écrevisses, ou on jette son filet ailleurs. Et je pense que beaucoup de chercheurs un peu ambitieux travaillent comme ça.
Mais quand vous revenez sur votre propre carrière, Jean-Pierre Sauvage, est-ce que vous percevez une sorte de fil unificateur qui relierait tous les projets sur lesquels vous avez travaillé, ou est-ce qu'il y a eu des bifurcations qui vous ont fait complètement changer de direction ?
Oui, il y a eu des bifurcations. C'est celle dont je parlais, la bifurcation entre la photolyse de l'eau et puis les anneaux entrelacés. Disons, a priori, il n'y avait rien de commun à ces deux domaines, et nous, on a trouvé quelque chose de commun qui nous a emmenés vers les anneaux entrelacés.
Et je voudrais que vous racontiez, Jean-Pierre Sauvage, deux prix Nobel. Celui de Jean-Marie Lenne, c'est vous qui lui avez annoncé qu'il avait le prix Nobel, je crois.
Oui.
Et puis le vôtre, auquel vous n'avez pas cru.
Jean-Marie Lenne, bien sûr, c'était un événement énorme à Strasbourg. Mais Jean-Marie Lenne était chez lui, et je crois que les gens essayaient de le contacter.
Il n'y avait pas de portable à l'époque.
C'était en 87, et il restait chez lui, il a dû boire un café un peu plus longtemps que d'habitude. Et les gens du CNRS, la direction du CNRS, me connaissaient. Donc ils m'ont téléphoné en disant « Sauvage, trouvez-nous Lenne, il a le prix Nobel ». Et donc j'ai tout fait pour le trouver, et voilà, j'ai couru à son labo, et tout d'un coup on a vu Jean-Marie Lenne arriver, et ça a été bien sûr des hurlements de joie. Et...
C'était combien d'années avant le vôtre ? Le vôtre c'était 2016 ?
Oui, 2016 87. À 87, ça fait 20 et quelques années, oui, presque 30 ans.
Et alors le vôtre, on vous appelle, vous n'y croyez pas, on vous passe quelqu'un d'autre, vous le soupçonnez d'imiter l'accent de quelqu'un que vous connaissez.
Disons, on m'a passé quelqu'un d'autre. Alors, c'était l'Académie des sciences suédoises, le secrétaire de l'Académie des sciences suédoises. Et il voyait que ma réaction était très molle. C'est-à-dire qu'en me parlant, j'avais pas de réaction. Alors que normalement, les gens doivent être très excités lorsqu'on leur annonce qu'ils ont le prix Nobel. Et il a eu l'intelligence de me passer des gens qui étaient dans le comité, donc dans le même bureau que lui à ce moment-là, dont j'ignorais d'ailleurs totalement qu'ils étaient dans ce comité, et des gens que je connaissais. Donc notamment un collègue suédois, un chimiste prestigieux, Jan Becker. Et voilà, il m'a passé cette personne, j'ai reconnu sa voix. Il m'a dit, ah, Jean-Pierre, we are so happy for you. Et j'ai dit, ouais, ça doit être lui, c'est Jan Beckwall.
Donc là, j'y ai cru. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez eu un tel scepticisme alors que vos travaux étaient déjà reconnus à l'échelle internationale?
Mais disons, nos travaux étaient reconnus. C'est vrai, beaucoup de gens aimaient bien notre chimie, mais je veux dire, pour moi, il y a encore un tel gap entre être bien reconnu, invité à donner des conférences et obtenir le prix Nobel. Ça m'a...
Il y a un saut quantique,
disons. Ah oui, il y a un saut quantique très sérieux.
Et alors, votre réaction, ça a été d'appeler votre épouse,
qui
avait prévu un déjeuner, et sa première réaction a été de dire qu'elle devait...
Ah zut, on peut pas avoir Jacqueline, voilà.
Et quelques temps plus tard, vous racontez que vous êtes invité à l'Élysée à midi.
Oui.
À l'époque, le président de la République était François Hollande.
Oui, oui.
Et invité à midi, vous comprenez que ça veut dire invité à déjeuner.
Oui, c'était un faux sens de ma part, oui. J'avais pas bien compris.
Donc vous venez de Strasbourg.
Je viens de Strasbourg.
Et à midi 30.
C'était avant le TGV très efficace, mais enfin bon, ça allait. Et puis je pensais que oui, ça allait de soi, disons, que je serais invité à déjeuner à l'Élysée.
Et à midi 30, c'était terminé.
Et à midi 30, le conseiller qui était avec le président Hollande et moi me dit « Bon, monsieur Sauvage, je vous ramène parce qu'on peut se perdre pour sortir de l'Élysée, donc je vous ramène dehors. »
Mais on sent, quand vous racontez cet épisode, une forme d'ironie ou d'amertume par le fait que si vous aviez été footballeur...
Non, d'amertume, disons pas du tout à titre personnel, mais d'amertume... vis-à-vis du regard que le président de la République peut avoir sur la science.
Et vous pensez que les scientifiques prestigieux comme vous ne sont pas assez écoutés, entendus ?
C'est même pas les scientifiques, c'est simplement la science mérite d'être respectée, mérite même d'être mise à l'honneur, mérite d'être encouragée, mérite d'être soutenue financièrement. Et ça manque un petit peu dans notre pays.
Et sur l'enseignement des sciences, notamment de la chimie, moi j'ai étudié la chimie comme vous en classe préparatoire, et je me souviens que l'essentiel des problèmes, à l'époque, ça a sans doute changé, consistait à calculer le pH de solution.
Pour moi aussi.
Oui. Et est-ce que là, il n'y a pas une sorte presque de trahison de ce qu'est la chimie telle que vous la racontez, telle que vous la vivez?
Oui. Non, bien sûr. Mais pour moi, c'était pareil. Hein. Pourtant, c'était encore avant vous.
C'est que la chimie était transformée en mathématiques assez rapidement.
Oui, voilà, des mathématiques simples, parce que c'est aussi facile à noter pour les professeurs. Mais c'était pas très excitant pour les étudiants.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait emmener les élèves dans les bois, herborisés.
Je pense que
vous avez une passion pour le jardinage, par exemple.
Oui, oui.
Est-ce qu'elle est connectée à votre amour de la chimie?
Oui, c'est de la chimie aussi. Disons, c'est de la biochimie. Hein. Lorsqu'on plante une graine et qu'on voit comment elle pousse, c'est le meilleur exemple de photosynthèse. D'abord, il y a une germination et ensuite, la photosynthèse commence à marcher parce que ça devient vert et qu'il y a des molécules de chlorophylle. Mais je pense qu'il y a moyen de présenter la chimie de manière beaucoup plus attrayante que l'approche, disons, dont les gens de l'enseignement la font apparaître.
Vous dites aussi qu'en classe préparatoire, il y avait une espèce de règle implicite, et même parfois explicite.
Oui.
Les meilleurs vont faire des mathématiques, ceux qui sont un peu moins bons vont faire de la physique, et ceux qui sont...
Et
ceux que vous appelez les nuls vont faire de la chimie. C'est absurde.
Oui, je trouve aussi que c'est absurde. Absolument.
D'où ça vient? Est-ce qu'on connaît l'origine de cette façon d'orienter?
C'est très français. Hein.
Oui, bien sûr, c'est français, mais il faut quand même expliquer. Ça ne suffit pas de dire que c'est français pour comprendre l'origine de la chose.
Non. Franchement, je ne connais pas.
Est-ce que ça vient du classement des disciplines scientifiques par Auguste Comte?
Je pense que ça pourrait être ça, oui, je pense.
Mais
c'est quelque chose qui est resté dans la tête de certaines personnes.
Et vous êtes une sorte de contre-exemple, puisque vous étiez très très bon en maths. Et aussi bon en chimie.
Oui.
Donc vous avez dû presque imposer votre choix contre l'avis des professeurs.
Ah, je l'ai imposé, oui, sans aucun doute. Oui, j'étais meilleur en maths qu'en chimie. Mais j'avais quand même envie de faire de la chimie, parce qu'il y avait un côté fascinant.
Est-ce que les mathématiques vous servent beaucoup en chimie ?
Oh, ça m'a servi à un moment, mais disons, ça peut servir, ça va dépendre des domaines. À moi, assez peu. Si ce n'est que j'ai, sur le tard, j'ai essayé d'apprendre un peu de topologie, de théorie des nœuds. Bon, mon niveau en théorie des nœuds est en dessous de modeste, mais ça m'a servi, disons.
Est-ce que, Jean-Pierre Sauvage, dans le domaine qui est le vôtre, disons la synthèse en chimie, la simulation, simulation oui. numérique, oui. à base donc de mathématiques, oui. est très utilisée. Oui. Et est-ce qu'elle est prédictive ? Est-ce qu'elle est prédictive ? Est-ce qu'on peut prévoir oui. ce qui va se passer quand on met ensemble telle molécule avec telle autre ?
Disons, c'est beaucoup plus prédictif au niveau des propriétés des molécules. Molécules hypothétiques, hein, celles qu'on va rentrer via des programmes, dans des ordinateurs. Les propriétés, on va pouvoir les prévoir relativement bien. Maintenant, les synthèses, les voies de synthèse, fondées exclusivement sur du calcul, c'est beaucoup plus difficile.
Donc les expériences demeurent indispensables.
Les expériences sont totalement indispensables.
Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra tout simuler, les expériences
Je pense, quand on aura vraiment acquis énormément de données expérimentales et qu'on pourra les rentrer dans des systèmes performants à AI, intelligence artificielle.
Est-ce que Jean-Pierre Sauvage, un chimiste aujourd'hui, doit bien connaître la physique quantique ?
Disons, il est préférable qu'il en connaisse une partie. Il comprendra mieux pourquoi certains atomes ont envie de se lier les uns avec les autres, d'autres pas. Ça lui permettra aussi, je pense, de connaître des propriétés des molécules, propriétés importantes, sur des niveaux d'énergie, d'état excité, des choses.
Mais quand vous dessinez les molécules, j'ai vu ça dans l'une de vos conférences, les atomes, c'est des sortes de grosses billes.
Oui, oui.
Et donc, ils n'ont pas les propriétés que la mécanique quantique leur attribue. Ils sont simplifiés comme si c'était des objets classiques.
C'est vrai, c'est complètement vrai. Mais disons, il faut quand même connaître de la physique quantique ou chimie quantique lorsqu'on s'intéresse aux propriétés de la molécule.
D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite remarque à vous faire. Vous dites à un moment, vous citez le principe d'incertitude de Heisenberg, oui. et vous dites, on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et oui. la position des particules.
Oui.
En fait, c'est pas qu'on peut pas les connaître, c'est qu'elles n'existent pas en tant que telles.
Oui.
Donc c'est pas une limitation de notre pouvoir de connaître.
C'est mal exprimé, je suis d'accord.
Non, c'est comme ça qu'il est raconté dans tous les manuels.
Oui.
Mais ça peut être trompeur quand on essaie de comprendre l'implication de cette chose. À la fin de votre livre, Jean-Pierre Sauvage, vous parlez de Dieu, enfin vous posez la question de Dieu, et vous dites cette phrase, si Dieu existe, il n'a aucune raison d'être le Dieu des seuls hommes. Alors, quel est votre argument ?
J'assume.
Oui, bien
complètement.
Sûr. Oui. Vous l'avez écrit, donc j'imagine que vous l'assumez. Mais quel est votre raisonnement pour arriver à cette...
C'est un raisonnement très simple. C'est que l'homme est un produit de l'évolution, c'est tout.
Et donc,
comme
s'il y a
les palmiers, il n'y en a pas ici, mais comme tout ce qui vit sur la planète aujourd'hui, disons, c'est un produit de l'évolution biologique, c'est tout.
Donc, si un dieu, c'est un dieu du vivant en général.
C'est un dieu du vivant. Voilà, où c'est même, disons, le vivant, à mon avis, le vivant est apparu grâce à une soupe primitive qui, à un moment, a engendré des cellules qui ont commencé à se reproduire. Donc, je vais être sans doute plus radical, mais pour moi, Dieu, c'est le Big Bang.
Mais le Big Bang, c'est pas l'origine.
Ah, mais là, alors, je vais vous retourner quand même ce que vous m'avez dit, c'est que définir le temps... Pour le Big Bang, disons ça va être un temps à notre échelle, mais parler d'avant le Big Bang, il y a des physiciens qui sont choqués lorsqu'on parle du temps pré-Big Bang.
Absolument, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on comprend comme étant le Big Bang aujourd'hui, c'est pas l'instant zéro qui serait le déclenchement de tout ce qui existe, c'est quelque chose qui traduit une sorte d'évolution de l'univers à partir de conditions qu'on peut décrire, en amont desquelles notre physique est impuissante.
Tout à fait.
Et le « en amont d'eux », ça correspond à ce qu'on appelle le mur de Planck.
Oui.
Donc dire que le Big Bang, c'est la création de l'univers, c'est un raccourci
tout à fait.
Que la physique d'aujourd'hui ne cautionne pas. Jean-Pierre Sauvage, vous savez qu'on découvre presque tous les jours de nouvelles exoplanètes.
Oui, je sais.
Et cette découverte qui est très très prolifique,
oui,
laisse penser, en tout cas beaucoup le disent, que la vie extraterrestre serait possible par le fait que plus il y a de planètes et plus la probabilité qu'on y trouve de la vie est élevée. Mais est-ce que ce raisonnement est juste? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la Terre a une histoire qui est tellement contingente, tellement particulière, que toutes les synthèses dont vous parlez, dont vous dites qu'elles sont parfois très difficiles, presque miraculeuses, n'auraient pu se produire que sur notre planète?
Disons, de mon point de vue, ça relève plus du calcul de probabilité, mais je serais étonné qu'on n'arrive pas à des nombres gigantesques d'exoplanètes rapidement. Ça, d'ailleurs, depuis les travaux récompensés par le prix Nobel de Mayer et autres, je sais pas. Enfin, quand on discute avec des gens qui sont très branchés dans ce domaine, ils avancent des chiffres d'exoplanètes, enfin des nombres d'exoplanètes, potentiellement qui peuvent être d'une puissance 10.
Oui, mais ma question, c'est est-ce que l'argument statistique est pertinent ou pas?
À mon avis, oui, mais c'est un point de vue, c'est tout.
Et alors, quelle serait votre réaction si vous appreniez un jour qu'on a trouvé sur une exoplanète je ne sais quelle molécule, vous savez mieux que moi, qui serait la signature de la présence de vie?
De vie. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ça ne peut pas arriver. Dans la mesure où les exoplanètes, on n'aura jamais de communication.
C'est trop loin.
Ouais. Donc, la question me paraît intéressante, mais c'est une question purement théorique.
Mais même si on pouvait, grâce à des satellites sophistiqués, connaître la composition chimique des atmosphères éventuelles qu'on trouverait sur d'autres...
Composition chimique, on trouvera toujours à peu près tous les éléments. Disons, les éléments, les 100 éléments ou plus du tableau périodique, on les retrouve dans l'univers. Donc, je ne pense pas que la signature de la vie, ça soit des éléments. Il faut des molécules. Par exemple, des aminoacides qui se baladent dans l'espace intersidéral, des choses comme ça. De là à savoir d'où ils viennent, ça va être très difficile.
Mais est-ce qu'on est capable de définir les propriétés de la vie?
Disons, la vie telle qu'on la connaît. Oui,
oui.
La
oui,
vie telle qu'on la connaît.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie basées chimiquement sur d'autres atomes que le carbone, par exemple?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a une découverte dont vous aimeriez qu'elle soit faite de votre vivant? Une question que vous posez et dont la réponse vous paraîtrait essentielle?
Oh, disons, j'aimerais connaître l'origine de la vie terrestre. Me rapprocher de la connaissance de la vie terrestre. Mais bon, je sais que je mourrai bien avant.
Mais les molécules que vous synthétisez, quand on les regarde, et on peut le faire, on a l'impression qu'elles sont vivantes, elles bougent, elles marchent.
Elles bougent, mais certaines bougent, certaines marchent.
Elles sont équipées de moteurs.
Oui, c'est vrai, mais il manque quelque chose d'essentiel, c'est la réplication. Il faut que les systèmes moléculaires qu'on a fabriqués, nous chimistes, soient capables de se répliquer et de muter. Sans mutation, disons, la vie s'arrêtera très vite, parce qu'il n'y aura pas d'adaptation à l'environnement. Et sans réplication, bien sûr, il n'y a pas de vie. Donc, ça fait deux grandes barrières qui vont être très difficiles à surmonter.
Je vous remercie, Jean-Pierre Sauvage. C'était un plaisir de parler avec vous. Je rappelle votre définition de la chimie. Vous dites que la chimie, c'est la passerelle entre la nature atone et celle qui s'anime. Vous maintenez, vous assumez?
Oui, c'est une définition proposée par Jean-Marie Lène.
En tout cas, je vous remercie et je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « L'élégance des molécules » qui vient de paraître chez Humaine Science. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.